Continuons cette lecture du livre de la physique d'Aristote, chapitre, je prends tout de suite le chapitre 8, on saute, c'est le vanum, on va pas rester indéfiniment sur le vanum, parce que c'est déprimant, tout ce qui est vain, vous voyez que c'est très intéressant, tout ce qui est vain, tout ce qui n'a pas de causalité. Tout ce qui est du plomb et de la paille, comme dirait saint Thomas. Ce qui fond, qui n'est pas pris par l'amour, parce qu'au fond c'est ça. Tout ce qui est en dehors de la finalité. Alors, prenons le chapitre 8, comme ça on arrive au terme de ce livre si important. Tout d'abord donc, il nous faut dire pourquoi la nature est au nombre des causes en vue de quoi quelque chose advient. Donc, la finalité. Donc, le enekatu, en vue de quoi, hein. Puis, concernant le nécessaire, comment il y en a dans les réalités physiques. Alors ça, c'est le point de vue, si vous voulez, scientifique. Hein. Parce qu'il n'y a de science que là où on atteint le nécessaire. Alors il faut nécessairement voir où ce nécessaire apparaît. Tous, en effet, ramènent la recherche à cette cause. Puisque le chaud est par nature de telle qualité, et de même le froid, et chacune des réalités de cette sorte, tels effets seront et adviendront de par nécessité. Peritu anankayu. Donc, le nécessaire dans ce lien par les causalités. Hein, ce qu'il faut bien saisir ça, bien saisir que le nécessaire, au point de vue philosophique, ne peut exister, ne peut être saisi que dans la mesure où on a saisi un lien avec la causalité. Et alors, la finalité nous permet de découvrir dans nos activités quelque chose de nécessaire. Et de fait, s'ils ont dit cause, une autre réalité, ils négligent de s'attacher à cela même qu'ils ont touché, à savoir, pour l'un, l'amitié et la haine, pour l'autre, l'esprit. Ça, c'est allusion au précédent philosophe physicien qui ramène tout à l'amitié et à la haine, vous savez, Démocrite. Et puis à l'esprit, à Anaxagore. Alors, Aristote n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les causes propres. Il y a là une difficulté. Qu'est-ce qui empêche que la nature fasse ce qu'elle fait ? Non, en vue d'une certaine fin, ni parce que c'est le meilleur, mais comme Zeus fait pleuvoir, non afin que le blé croisse, mais de par nécessité. Vous voyez, ça c'est le fatalisme. Zeus fait pleuvoir parce que c'est nécessaire, et non pas afin que le blé croisse. Zeus s'en occupe pas que le blé croisse. Donc, au fond, ce qu'Aristote là, vous voyez, critique, c'est le télescopage des causalités propres. Alors, on remonte tout de suite à la causalité première. Vision de l'ontologisme. Tout se ramène à la causalité première. Vous recevez une tuile sur la tête, c'est Dieu. Vous vous déraillez, c'est Dieu. Et vous ne cherchez pas les causes secondes. Un aspect faussement mystique. C'est ça. Disons. Car ce qui est allé vers le haut doit se refroidir. Et ce qui s'est refroidi, devenu haut, doit aller vers le bas. Donc vous ramenez ça aux causalités propres de l'eau et du feu, le chaud et le froid. Voyez, c'est par nature que le chaud monte en haut et non pas par nécessité de Zeus. Donc vous devez saisir dans le feu la qualité propre du feu qui fait que le feu monte en haut. Et vous devez saisir dans l'eau la qualité propre de l'eau qui engendre le froid et qui tombe vers le bas, la pesanteur. Quant au fait que cela advenant, le blé croisse, il se produit par accident. De manière encore semblable d'ailleurs, si le blé se perd pour cela sur l'air, il ne plut pas en vue de ceci que le blé soit perdu. Mais cela s'est produit par accident. C'est pour l'Afrique. Non, le mil ne pousse pas. Ouais, ça, c'est causalité par accidence. C'est pas une causalité propre. De sorte que, vous voyez, au fond, tout le saisi d'Aristote ici, hein, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire qu'on arrive à saisir la cause propre, distincte de la cause accidentelle, per accidence, et de la cause finale, de la cause ultime, pardon, la cause ultime. La cause finale n'est pas une cause ultime. Et c'est par rapport à la cause finale que le transfert se fait le plus facilement. Alors qu'il y a une cause propre, fin. Et il y a une cause ultime qui n'est pas directement la fin propre. Et c'est à l'égard de la fin que très facilement on télescope. On comprend très bien. Parce que la fin, par nature, est déjà ultime. Mais c'est l'ultime dans les causes propres. Et ce n'est pas l'ultime dans la cause ultime. Donc il faut toujours, hein, si on veut avoir une connaissance scientifique, saisir les causes propres, donc la fin propre, par rapport à la nature. On est au niveau de la philosophie de la nature. Tandis que si vous prenez Zeus, aux ultimes. Demain, oui. De sorte que l'on demandera qu'est-ce qui empêche que les parties aussi dans la nature en aillent ainsi. Que, par exemple, les dents poussent de par nécessité les unes au-devant, tranchantes et propres à déchirer, les autres, les dents plates et utiles à broyer. On va montrer ça à notre dentiste de Neulis. Ce passage d'Aristote, c'est intéressant pour lui, en tant que dentiste qui s'intéresse à la philosophie. On montrera qu'Aristote a pensé aux dents, que c'est très important. Par exemple, les dents poussent de par nécessité, les unes au-devant, tranchantes, propre à déchirer, irascible. Les autres, dents plates et utiles à broyer la nourriture, concupiscible, puisqu'elles ne sont pas advenues en vue de cela, mais que cela s'est rencontré ainsi. Il en ira d'ailleurs de manière semblable concernant les autres parties en lesquelles semble se trouver exister le ce en vue de quoi. C'est très lumineux. Quand donc toutes les parties se sont trouvées concourir comme si elles étaient advenues en vue d'une certaine fin, eh bien, ces êtres qu'elles ont composés ont été conservés, se trouvant par hasard convenablement constitués. Tandis que s'il n'en avait pas ainsi, ils ont péri en périssant. tout comme, au dire d'Empédocle, les bovins à face d'homme. C'est très dense, c'est pas commode à voir. Voir la nécessité engendrée par la finalité. Pourquoi les dents poussent-elles de cette manière? Vous n'êtes jamais posé la question. Les dents de devant, qui sont des dents tranchantes, propres à déchirer. Les dents du fond, qui sont plates, propres à mâcher. Voyez. Alors comment ça se fait, ça? Alors évidemment, au point de vue science biologique, aujourd'hui, on verra tout simplement l'organisation qui se fait en fonction de cela. On ne se pose pas pourquoi. Comment ça se fait que dans la même bouche, vous avez des dents tranchantes et des dents plates. Et quand il y a l'inverse, c'est très ennuyeux. Faites un peu l'inverse. Pas du tout. Il y a une espèce de... Donc, alors, nécessité comme ça, pourquoi nécessité comme ça? La nécessité comme ça provient de la finalité. Pourquoi les dents? En vue de quoi les dents? Pour le vivant. Et le vivant est capable d'assimiler l'autre. Et les dents vont permettre d'assimiler l'autre. Alors, on voit bien, la nécessité provient de la finalité propre. Je crois que c'est ça qu'il veut montrer. Donc, dans un tout, vous voyez, dans un tout, il y a des parties qui vont dans un sens et des parties qui vont dans un autre. Parce que le tout doit être finalisé de cet sens. Et chaque partie doit être ordonnée à ce tout. Tel est donc le raisonnement par lequel l'on peut soulever cette difficulté. S'il en existe quelque autre, il est de cette sorte. Oui. Pour
toute chose. Oui.
Tout le temps.
Et souvent, ça, on remarque quelquefois, ça tombe un peu à côté.
Oui, parce qu'alors, vous voyez, c'est le système que vous avez dit, le blond est... Et comme ça, pour affiner. Et ça a été justement à partir de là, vous voyez, c'est que vous ne respectez pas le raisonnement analogique.
Et comment ne pas tomber dans un finalisme?
Dans un finalisme, c'est parce que vous revenez toujours au fait. Et vous retombez dans un finalisme quand, à partir d'un exemple, vous universalisez pour les autres. C'est pour ça que la connaissance analogique, qui est la connaissance par les causes, ne permet pas cette universalisation. Il faut tout le temps revenir à l'analyse des faits. Vous voyez, la scolastique décadente a été justement ce fait de faire que, à partir de l'analyse de l'analogie, on a universalisé. Vous dites. Oui.
Moi, ça devient une cause exemplaire. L'analogie devient beaucoup plus métaphorique.
Elle devient métaphorique. Vous dites, toute nature, tout être naturel est finalisé. Vous avez parfaitement le droit de dire ça. Tout être naturel est finalisé. Je vois donc un fruit dans la nature, c'est ce fruit est finalisé. Mais il est finalisé par quoi? La fin, elle est propre et immanente à la nature. La fin n'est pas l'usage. Vous voyez, vous passez d'un ordre à un autre ordre. User des fruits de la nature relève de quoi? De la finalité humaine. Si vous projetez la finalité humaine qui est extrinsèque à la nature sur la nature pour l'expliquer, vous avez une généralisation qui n'explique rien. Si au contraire, vous revenez à la nature propre pour chercher la causalité propre, vous direz, la nature produit des fruits. Pourquoi la nature produit-elle des fruits ? La nature produit des fruits pour la fécondité de la nature, pour que l'espèce de la nature puisse continuer. Pourquoi ces fruits de la nature sont-ils différents ? C'est vrai. Pourquoi les fraises ont des fruits comme cela et que le melon a des fruits comme cela ? Alors vous essayerez d'expliquer ça, vous voyez, mais en regardant et en venant à la nature particulière de ce que c'est que ce fruit particulier, cette plante particulière de la fraise, et puis du melon. Ce n'est pas par l'usage que vous en faites que vous expliquez la nature du fruit. Ça, ce serait une généralisation fausse. Vous devez tout le temps revenir au fait existant. Et c'est en analysant ce fait existant, c'est-à-dire sa structure propre, la structure propre du fraisier, la structure propre du melon, que vous pourrez, à partir de la cause formelle, préciser le fruit. Pas autrement. Vous voyez ? Que le... Oui.
On ne peut pas les généraliser.
Ah non, surtout pas. C'était l'erreur d'un scolastique. L'erreur d'un scolastique, c'est de se servir de l'analogie pour raisonner. L'analogie ne nous permet pas, vous voyez, de passer d'un genre à l'autre. En faisant ça, vous télescopez tout, et au bout d'un certain temps, vous dites « Zeus explique tout ». La providence explique tout. Vous êtes malade, mais c'est parce que Dieu veut votre bien. Rien de plus irritant pour un malade que vous lui dites ça. Vous êtes malade parce que vous n'avez peut-être pas assez fait attention et manqué de prudence. Vous n'avez pas été assez attentif à tel ou tel événement. Et c'est comme ça que vous êtes tombé malade. Parce qu'il y a en vous un atavisme comme ça. Vous aviez un grand-père alcoolique qui vous a rendu particulièrement vulnérable. Mais c'est pas à cause de Zeus, c'est à cause du grand-père alcoolique. C'est quand même beaucoup plus rassurant. Des causalités de cette manière-là, qui sont des causalités propres de disposition par le point de vue de la nature ou de la détermination propre. Un animal qui a des dents, vous expliquez pourquoi il a des dents. Carnivore. C'est pour ça qu'il a des dents. C'est pour ça que supprimer un être qui a des dents de manger de la viande, ça va plus. Vous ne voulez pas être cardiaque. Et vos dents, qu'est-ce que vous allez en faire ? Quand quelqu'un ne veut pas, vous voyez, qu'il veut avoir un régime végétarien, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel, puisqu'au fond, les dents, ça sert à quoi ? Ça sert à manger une beefsteak, quoi. Et alors, si vous ne saisissez pas ça, alors, vous pouvez être végétarien pour d'autres raisons. Alors à ce moment-là, vous préservez vos dents pour des raisons très particulières. Et puis au bout d'un certain temps, parce que vous ne prenez pas de beefsteak, vous allez saisir, dès que vous voyez, parce qu'il y a un refoulement par rapport au beefsteak, hein, le végétarien. Alors dès qu'il voit quelqu'un, il a envie de manger. J'ai jamais remarqué ça chez les végétariens. On se tient à distance. Il y a une finalité. Il y a une finalité des choses de la nature. On n'a pas des dents pour manger uniquement des... Vous voyez, oui, la bouillache à un chat. Et ici donc, le raisonnement par lequel on peut soulever cette difficulté, s'il en existe quelque autre, il est cette sorte. C'est évident que c'est dans les parties des animaux que vous voyez le mieux. C'est l'application. Mais ici, on est au niveau de la nature. Donc c'est beaucoup plus difficile. Au niveau de la nature, hein, ça c'est le propre de toute la vision d'Aristote, c'est qu'au niveau de la nature, la causalité fin demeure immanente à la forme. C'est la forme qui explique la fin. C'est la structure de la nature qui explique la fin. La fin n'est pas extrinsèque. C'est le propre de la nature. Oui. La fin n'est extrinsèque que pour l'esprit. Et la fin peut être extrinsèque pour l'esprit grâce à l'intentionnalité de la connaissance qui fait que je connais le bien extérieur à moi, mais du fait même que je le connais, il devient immanent à moi et je peux donc l'atteindre. Donc la fin est toujours saisie par l'immanence. Mais une immanence qui me permet de découvrir la transcendance grâce à l'intentionnalité. Mais toujours la finalité est prise à partir de la détermination. Autrement, j'ai une fin extrinsèque, donc métaphorique. Et c'est comme ça qu'on a dit que la causalité finale était métaphorique. On a oublié le lien entre fin et forme, ce qui est capital. Mais il est impossible que ces réalités en aillent de cette manière. Ces réalités, en effet, et toutes celles qui sont et adviennent par nature, adviennent soit toujours, soit le plus souvent. Revenir. Aristote supprime donc l'explication des finalités par l'extérieur, par Zeus ou par Perakidens. Alors, il revient, c'est ça qui est intéressant. Quel est le signe de la finalité dans les réalités physiques? Ces réalités, en effet, et toutes celles qui sont et adviennent par nature, adviennent soit toujours, soit le plus souvent. Tandis que ne le fait aucune de celles qui adviennent par l'effet de la fortune et du hasard. De fait, il semble que ce ne soit ni par l'effet de la fortune, ni par l'effet d'une coïncidence, qu'il pleut souvent en hiver, mais ce l'est plutôt en été, ni qu'il fait chaud en été, mais ce l'est plutôt en hiver. Oui, autrement dit, qu'est-ce qu'Aristote veut souligner? C'est que le fait qu'une opération arrive toujours, ou le plus souvent, ça c'est très important. Os epitopollu, et puis aï, sont les signes qu'il y a un lien de la forme et de la fin. C'est comme ça que je décèle une finalité. Vous voyez, c'est très ténu. Hein. La finalité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. À partir des opérations qui se font le plus souvent. Si donc ces réalités semblent exister ou comme par l'effet d'une coïncidence ou en vue de quelque fin. Vous voyez, quelqu'un qui regarde de l'extérieur une communauté voit qu'il y a, par exemple, à certains moments, toujours le même mouvement. Il doit y avoir une finalité. Ou le plus souvent. Il compte le nombre de frères qui quittent et vont à la chapelle, le nombre de frères qui vont au réfectoire. Il y en a plus au réfectoire qu'à la chapelle. Et puis, de façon régulière, c'est comme ça. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une finalité différente. Entre le fait d'aller à la chapelle et la finalité d'aller au réfectoire. Ça, faire ça. Alors comment il va déterminer? Il va déterminer donc qu'il y a une finalité plus fondamentale à l'égard de la nourriture qu'à l'égard de ce qui semble être la prière. Puis, le lever de nuit. Tiens, il y en a encore moins. Alors là, la finalité est plus extraordinaire. La nuit doit être donc quelque chose de surabondant. La finalité s'impose moins. Et le degré de fréquence monte le degré de nécessité. C'est comme ça que ça se fait. Aïe, toujours ou le plus souvent. Et puis Topolou. Bon, je prends ça pour ça. Je prendrai ça pour le potager, par exemple. La manière dont ça pousse au potager. Ça pousse différemment. Il y a des plantes qui poussent merveilleusement. Chaque graine pousse. D'autres graines, j'en ai beaucoup, la moitié ne pousse pas. Je me poserai la question, comment se fait-il? Il y a une finalité parfaite. Il y a une finalité beaucoup moins grande. Je ferai des recoupements. Un peu plus loin, la terre est un peu différente. Même résultat ou pas même résultat? Je me dirai donc, il y a des, du côté de la causalité matérielle, il doit y avoir quelque chose qui arrête la poussée de la finalité. C'est comme ça que fait le jardinier quand il est philosophe. Il étudie de voir si le point de vue de la finalité est général. Et si de fait tout pousse, merveilleux. C'est ça que je dois prendre. Si au contraire ça pousse, il doit y avoir un inconvénient. Alors il étudie la terre dans laquelle il est. Et s'il peut faire des expériences, il les multiplie pour voir si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, de la causalité matérielle, ou au contraire du temps. Alors là, mauvaise chance. S'il va semer ça dans la lune montante ou dans la lune descendante, s'il a des petites plantes qui sont lunatiques, sensibles à la lune, au contraire, d'autres, aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. La lune peut monter, mais aucune espèce d'importance. Oui, il étudiera, c'est les causalités. La chose qui arrive le plus souvent, la chose qui arrive... Oui, au fond, on discerne la finalité à partir du épitopolu, le haine dans les opérations. Et on rattache ça à la nature propre. Mais ce n'est pas du tout hein. Une déduction. C'est toujours une induction. Tout le temps. Et c'est comme ça qu'on devient intelligent. Et c'est comme ça qu'on connaît le rythme particulier de telle plante. Le rite de la nature. De plus, donc, si par ailleurs exister n'est possible que pour ces mêmes réalités, attendez, les choses sont tournées, faut que je fasse attention. Il est impossible que ces réalités en aillent de cette manière. Bon. Ces réalités, en effet, et toutes celles qui sont et adviennent par nature, adviennent soit toujours, soit le plus souvent. Ça, c'est très important comme constatation. Tandis que ne le fait aucune de celles qui adviennent par l'effet de la fortune ou du hasard. De fait, il semble que ce ne soit ni par l'effet de la fortune, ni par l'effet d'une coïncidence, qu'il pleut souvent en hiver, mais ce l'est plutôt en été, ni qu'il fait chaud en été, mais ce l'est plutôt en hiver. Si donc ces réalités semblent exister, ou comme par l'effet d'une coïncidence, ou en vue de quelque fin, si par ailleurs exister n'est possible pour ces mêmes réalités, ni par l'effet d'une coïncidence, ni par l'effet du hasard, il resterait, semble-t-il, qu'elles existent en vue de quelque fin. Mais toutes ces réalités, toutes les réalités, de cette sorte existent, à n'en pas douter, selon la nature, ainsi que le déclare ceux-là même qui disent ces choses. Donc, la fin, en vue de quoi, existe bien dans les réalités qui adviennent et sont selon la nature. Vous voyez le raisonnement ? Bon, il s'agit de montrer que la finalité existe dans les choses de la nature. Alors, on écarte toutes les autres causalités. Le hasard, la bonne fortune, ça n'explique pas. Il y a quelque chose de plus radical et de plus profond. Parce que le hasard et la bonne fortune ne se répètent pas. Et c'est le phénomène de la répétition. C'est exactement comme ça que le scientifique raisonne. Et il enlève telle ou telle chose pour voir si on a une nécessité. C'est comme ça qu'on avance. On exclut. Et c'est un raisonnement très inductif. De plus, et c'est pour ça que c'est très délicat de bien voir comment on saisit la finalité à partir des réalités physiques. La finalité reste une chose cachée. Elle se manifeste d'une façon très très cachée. De plus, dans toutes les réalités en lesquelles existe une certaine fin, l'étape préalable l'étape consécutive sont réalisées en vue de cette fin. Ainsi donc, c'est de la manière dont elle est réalisée qu'advient selon la nature, et de la manière dont elle advient selon la nature qu'est réalisée chacune de ces réalités si quelque chose ne vient pas y faire obstacle. Toujours la possibilité de quelque chose qui vient faire obstacle, de l'extérieur, et qui empêche le point de vue de la nature. Alors vous voyez que c'est très curieux ici. L'étape préalable, c'est quoi ? C'est le point de vue de la disposition. L'étape consécutive, c'est quoi ? C'est la propriété. Donc Aristote souligne que la finalité est inscrite dans la disposition et qu'elle est manifeste dans la propriété. Et qu'elle est là pour faire l'unité à travers toute l'activité. Tandis qu'au contraire, ce qui advient par fortune et par le hasard n'est pas inscrit dans la disposition et n'est pas inscrit dans la propriété. Ça me semble très intéressant, parce que c'est là où on saisit l'ordre de l'activité naturelle. Quelque chose alors est-il réalisé en vue d'une fin ? Eh bien, alors encore, cela advient selon la nature en vue de la fin. Si par exemple, une maison était du nombre des réalités qui adviennent naturellement, vous voyez, c'est les macaronis qui poussent, c'est la même chose, hein ? Si par hasard, une maison était du nombre des réalités qui adviennent naturellement, ça pousse, une maison, ça dépend dans quel terrain. Il y a des terrains où la brique pousse, il y a des terrains où la pierre pousse. Elle adviendrait, comme elle le fait maintenant, par l'effet de l'art. Or, advenir par l'effet de l'art appelle une causalité extrinsèque, et non pas une causalité immanente. Si d'ailleurs les réalités qui adviennent naturellement n'advenait pas seulement naturellement, mais aussi par un art, elles adviendraient de la même façon qu'elles le font selon la nature. Dans tout devenir naturel, donc, on peut et doit distinguer deux moments dont l'un devient ou est en vue de l'autre. Donc, dans tout devenir naturel, on distingue un ordre. Et c'est grâce à cet ordre qu'on découvre la fin.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'ordre vers la fin est analogue au niveau artistique et au niveau de la physique, mais que la causalité est différente?
La causalité est différente, parce que l'une est extrinsèque et l'autre. C'est en ce sens-là qu'on dit que l'art imite la nature. Vous voyez? C'est parce qu'il y a un ordre semblable. Et vous respectez l'ordre de la nature dans l'art. Et quand vous ne respectez pas l'ordre de la nature dans l'art, vous faites des choses monstrueuses, qui ne durent pas, qui tôt ou tard disparaîtront. C'est l'ordre. Vous voyez, alors ça, c'est capital de voir ça. C'est l'ordre dans l'opération naturelle qui manifeste la finalité. D'une manière générale d'ailleurs, l'art, d'une part, accomplit les réalisations que la nature est dans l'impossibilité d'achever. L'art imite, mais achève. D'autre part, imite les réalisations de la nature. Toujours, ces deux aspects pour distinguer l'opération artistique. Imite la nature et l'achève. Vous voyez, c'est les mêmes principes que prennent un théologien pour voir si des écrits sont inspirés ou tout simplement relèvent de la grâce substantielle. Y a-t-il quelque chose qui ne s'explique pas par les dons du Saint-Esprit et donc réclame les dons charismatiques qui sont artistiques? Tandis que les dons du Saint-Esprit, vous voyez, sont naturels à la grâce. Exactement les mêmes principes. Hein. Si vous êtes en face d'un phénomène qui ne s'explique pas par l'ordre naturel, vous dites l'art a passé. J'ai toujours donné cet exemple. Hein. On découvre dans le désert de Juda une pierre qui semble taillée. Est-ce que cette pierre est taillée pour être un outil ou cette pierre est taillée naturellement? C'est-à-dire qu'elle apparaît comme ça naturellement. Monsieur Test, Valérie, je vois au bord de la mer quelque chose qui semble avoir telle taille. Est-ce que ça relève de la nature ou est-ce que ça relève de l'art? Vous voyez, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Il y a un ordre naturel, il y a un ordre artistique. Mais l'ordre artistique épouse l'ordre naturel. Quand c'est un véritable ordre artistique. Mais il y a quelque chose de plus qui est une attente vers une causalité extrinsèque.
C'est
l'ordre de la nature et le point de vue de quelque chose qui ne s'explique pas dans la détermination de la pierre, qui ne s'explique pas selon la nature de la pierre, et le phénomène de l'érosion, le phénomène de tout ça. Vous voyez, au fond, c'est toujours la question de la méthode archéologique. Foucault. Quand je découvre dans le fond de la terre une pierre qui est taillé de telle manière, est-ce que c'est l'épaule d'une statue? Quand il n'y a qu'un bout, hein. Quand tout y est, c'est facile. Quand il n'y a qu'une petite pièce, est-ce que c'est sculpté ou est-ce que phénomène d'érosion?